Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, on commence tout de suite avec le sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo aujourd'hui, avec tout d'abord notre coup de cœur plateforme consacré à Maldito, sa nouvelle série événement de Max qui vient de débarquer. Jean-Charles Hue, son créateur, sera avec nous pour en parler. Et puis on aura le plaisir de dérouler nos coups de cœur télé cette semaine, consacré à Résistante avec Élodie Navarre qui sera notre invitée aujourd'hui. On aura le plaisir de recevoir Stomy Bugsy pour le final de la 12e saison de Léo Mattei. On aura le plaisir de recevoir José Dayan pour le nouveau numéro du Capitaine Marlowe consacré notamment à un hommage à Émilie Dequesne qui joue ici son dernier rôle. Et puis on aura le plaisir de recevoir aussi Bruno Debrandt pour un nouvel épisode du Voyageur qui sera diffusé samedi soir sur France 3. Et puis notre coup de cœur ciné consacré au film De Mauvaise Foi qui sortira mercredi dans les salles à cette occasion. Le producteur Hubert de Torcy, le réalisateur Albéric Saint-Martin et quasiment tous les comédiens seront avec nous. Erad Van Meyer, Robin de Stamedrat ou encore François-David Cardonnel, Philippe Duquesne et Pascal Demelon vont nous rendre visite. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti.
Le coup de cœur, plateforme de la semaine.
Notre coup de cœur plateforme est consacré à Malditos qui vient de débarquer sur Max depuis vendredi. C'est l'événement nouvelle fiction française créée et réalisée en partie par Jean-Charles Hue qui est avec nous. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va nous emmener dans une plongée en Camargue à travers une communauté gitane qui va se retrouver sous le coup d'une expulsion face à une montée des eaux inexorable et qui va devoir faire face à leurs démons, qui va devoir faire face aussi à leurs problèmes de famille, des problèmes de clan et surtout quand ce clan est mené de main de maître par une femme. Et évidemment, ça facilite pas les choses. Comment est née un peu cette histoire dans votre tête, Jean-Charles ?
Alors, écoute, j'étais justement en Camargue à cette époque, il y a environ 4 ans et demi, au Sainte-Marie-de-la-Mer, lieu que je connais très bien, où je me rends, pour ainsi dire, tous les ans avec ma famille. Un producteur, Nour Sadar, m'a appelé, un producteur que je connaissais depuis quelques années déjà.
Qu'on connaît bien et, aussi, qu'on embrasse d'ailleurs.
Voilà, me disant qu'il était justement en ce moment même, lui aussi, en Camargue, et que lui la découvrait, cette Camargue, et qu'il trouvait ça tellement formidable qu'il avait envie d'y développer un projet, et il pensait que j'étais la bonne personne pour mener à bien ce projet. Moi, justement, je me suis fait un peu connaître, on va dire, dans le monde, alors on va dire plus du cinéma, en tout cas, et plus dans le monde gitan dit voyageur, c'est-à-dire ces groupes ethniques comme les Yéniches, justement, qui sont issus d'Europe centrale, et qui vivent, on les appelle des voyageurs, hein, parce qu'ils vivent majoritairement dans des caravanes, qu'eux appellent camping, d'ailleurs. Moi, c'est plutôt ce monde-là que je connais. Mais par ailleurs, j'ai connu dans ma vie, effectivement, donc la Camargue, les Sainte-Marie-de-la-Mer, avec ces communautés de gitans qui sont d'origine andalouse ou catalane, qui ont des traditions différentes, une manière d'être différente, qui eux sont sédentarisés depuis longtemps dans des maisons, des appartements. Et donc du coup, l'idée est venue de confronter deux familles différentes, l'une qui est principalement pas que, mais principalement yéniche. Ils travaillent comme forains, donc qui ont leur propre fête foraine. La première, c'est la famille Torres, et la seconde, c'est la famille Amaya, qui eux sont d'origine andalou qui vivent à leur côté, mais qui ne sont pas du tout forains, qui eux, ça donne à d'autres occupations. Et donc ces deux familles sont liées parce que un peu à façon de Roméo et Juliette, deux de leurs enfants s'aiment, se fréquentent, même si ça n'est pas bien vu de la part des deux clans, mais on part un peu finalement sur cette base où l'un des deux clans, donc les Torres, ceux qui ont la fête foraine, se voient envahir par les eaux et demandent un peu le secours naturel, solidaire, une solidarité gitane de l'autre camp, le camp Amaya, de bien vouloir les accueillir chez eux. Et évidemment, ça ne va pas être facile, ça va surtout faire remonter, voilà, les secrets enfouis, les haines parfois, parce qu'entre clans différents, ils ne s'apprécient pas toujours, loin de là. Ils vont devoir réussir à s'entendre malgré les difficultés.
Pour la survie de leurs deux clans.
C'est une tragédie, hein, c'est-à-dire, quand je dis une tragédie, c'est-à-dire que l'intérêt était de partir sur faire à la fois le portrait de cette Camargue que je connais bien, qui est très photogénique, très cinématographique, et le portrait de deux types de gitans, deux clans de gitans que par ailleurs je connais aussi. Et donc c'est ce mélange-là que j'avais l'intention de faire exister ce projet de façon à ce que on puisse raconter cette histoire avec la lumière de la Camargue, avec son aspect primitif, avec ses animaux, avec ses enjeux, la montée des eaux. Il y a une chose qui, bien sûr, touche presque tout le monde, non pas la montée des eaux par elle-même, mais la question climatique. Donc ça raconte à la fois la difficulté d'être de cette communauté-là, et en même temps, ça concerne tout à chacun, quoi, finalement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va devenir de nous dans ce monde qu'on a connu d'une certaine façon jusqu'à maintenant et qui malheureusement, pour certaines raisons, est en train de changer. Et donc, il faut livrer un combat. Il faut livrer un combat. Donc, c'est un trailer dans le sens où se livre aussi un combat avec d'autres armes et parfois des armes à feu pour ces deux clans puissent s'entendre, partager et se dire qu'au final, faut qu'ils dépassent les rancœurs pour survivre, tout simplement, quoi, pour survivre.
Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est souvent quand on a exploré un peu ce monde des gitans dans les films, dans les séries, c'est souvent le patriarcat qui est à l'honneur. Mais là, c'est à travers justement le portrait d'une femme forte jouée par Céline Salette, qui est absolument incroyable. C'est une femme qui est vraiment au cœur de l'histoire aussi. C'est un parti pris.
Oui, alors c'est un parti pris, tout à fait. Il y avait ça d'intéressant, c'est-à-dire que du côté donc de la famille Torres qui sont forains, on a une femme en l'absence de son mari finalement qui a disparu, qui reprend le flambeau du clan
Et
à
qui
la
essaye de le
tête du clan.
mener comme un peu, de main de maître.
Voilà. Et donc toute la difficulté à la fois pour le personnage, je dirais, et à la fois pour Céline Salette, l'actrice, c'est de se confronter finalement à ces solides gaillards et à ces femmes tout aussi solides, qui sont jouées par de véritables voyageurs, de véritables gitans, de tenir ce rôle d'autorité, je dirais, mais d'autorité qui doit aussi bien sûr se faire respecter. Voilà. Et donc, il y a un pari fort quand même dans ce projet, qui est de se dire, il faut à la fois que ce soit une femme, mais que ce soit tenu de façon à ce que les autres, qui sont aussi des vrais gitans non professionnels acteurs, qu'ils puissent la respecter. Vous voyez ce que je veux dire? En tant que chef, à l'image, mais aussi que l'actrice puisse être suffisamment crédible à leurs yeux en tant qu'une actrice qui joue le rôle d'une voyageuse. Vous voyez?
Elle est
Et
extraordinaire.
ça, voilà. Voilà, c'est un peu ça le pari, quoi. Et Céline a relevé le gant parce que je sais par expérience, pour l'avoir vécu déjà, que c'est une chose qui peut faire peur. Et Céline a réussi avec son talent et pas que le talent, la question de cette de la générosité qu'elle a et de la curiosité qu'elle a eue pour ce monde-là, pour le monde voyageur gitan, fait que en fait une osmose s'est créée et très rapidement puisque dès le casting, si j'ose dire, on a fait venir Céline rencontrer tout le clan d'un seul coup du côté des d'Orkel, du côté des voyageurs, cette famille avec laquelle elle était censée jouer la chef et immédiatement, voilà, on a sorti la caméra et tout le monde est parti dans une première improvisation pour cette rencontre-là, finalement. Et ça a été très fort, très étonnant. Cette rencontre s'est produite. Donc, cette magie s'est produite. À partir du jour-là, on a tous été très rassurés. Et on s'est dit, bon, voilà, je sens qu'on va vivre une aventure formidable. Et ensuite, il a fallu que Damien Bonnard en fasse autant de son côté, c'est-à-dire dans le camp Amaya, où là, lui, il joue quand même le rôle du chef et confronté à tout un clan de gitans, véritables gitans, qui viennent tous de Pertuis, et dont, pour la petite histoire, l'un des personnages, Dija, une femme d'une soixantaine d'années, qui est, elle, dans la vraie vie, chef de clan véritablement. Donc, il a fallu vraiment que cette magie prenne, quoi, parce que c'est ce type de projet, c'est ça. On peut pas se contenter de se dire, voilà, est-ce qu'on sait faire notre métier, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon. Il faut que la magie opère.
Bon, super casting en tout cas. Céline, Salette, Damien Bonnard, Pablo Cobo, Raïka, Anavicius, qu'on adore aussi, Maldito, c'est dès maintenant en ligne sur Max. On ne le rate pas, évidemment. Cet épisode de 45 minutes. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Charles, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et on va se quitter avec la bande-annonce. À très vite. Maldito, c'est maintenant, c'est sur Max.
Madame Torres, vous venez me voir pour la vie d'expulsion, c'est ça?
Vous pouvez pas nous dégager comme ça? Camargue, c'est chez nous. On a 27 jours pour trouver une solution pour ce terrain.
Trouver des levées là où il y en a, c'est tout.
Je veux plus jamais que tu parles de ça.
Yéniche ou Andalou, c'est pareil pour eux, on est tous des gitans, faut pas la différence.
Je pensais qu'on pourrait s'installer chez vous juste le temps de...
On est peut-être tous gitans, mais il y a quelque chose qui nous sépare. Vous causez trop facilement des morts.
Ça fait 7 ans que je dis à tout le monde que ton père est vivant.
Si quelqu'un apprend ce qu'on a fait, on sera renié par tout le monde.
C'est pas fou.
On a maudit mes fils.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, Tommy Bugsy, Bruno De Brandt et José Dayan sont avec nous dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Chez moi tout est faux, c'est ce que tu m'as dit. Devant ma photo, t'as déjà écrit qui je suis. Trop brillante pour toi, pas assez sombre. T'en fais pas pour moi, pourquoi tu voudrais que je réponde? Je veux me sentir belle sans me sentir comme. Je veux être comme elle, me sentir forte. Je veux être toutes ces femmes à la fois. Mon visage, mauvais message, j'essaie de voir. Sois jolie, c'est la revanche d'une bombe. Je crierai 100 fois, le monde m'entendra. J'écrirai sans toi, j'ai pas besoin que tu me croies. Je veux me sentir belle sans me sentir comme. Je veux être comme elle, me sentir forte. Je veux être toutes ces femmes à la fois. Mon visage, mauvais. Pas déconne. Mon visage mauvais.
Rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré à Résistante qui sera diffusé mercredi soir sur France 2 à la veille de la commémoration des 80 ans du 8 mai 45. Élodie Navarre est avec nous pour en parler. Bonjour Élodie.
Bonjour.
On va découvrir des destins hors du commun, celui de Mère Madeleine, une supérieure d'un institut pour jeunes filles sourdes qui fait partie des héroïnes de l'histoire, qui va cacher dans son couvent des enfants juifs et des maquisards au mépris de la menace allemande, évidemment. Et c'est dans une France détruite par l'occupation allemande que tout ça va se passer. Et ça va être évoqué parmi les souvenirs de cette mère Madeleine incarnée par Lynn Renault en 1970 qui va nous faire rebasculer 26 ans plus tôt dans ce film où vous y jouez le rôle de Gisèle, la femme du maire. Élodie, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ?
Alors ce que j'aimais bien, c'était qu'on racontait donc plusieurs destins de femmes, de comment elles vont arriver dans la résistance, soit malgré elles, soit justement parce qu'elles veulent s'engager. Et dans mon cas, c'est totalement malgré moi. Je suis mère d'une fille sourde et muette qui apparemment n'est pas très heureuse à l'école et voudrait aller dans un institut spécialisé. Chose que moi je refuse parce qu'on sait qu'à cette époque-là, la langue des signes est très mal vue. Et mal vue parce qu'elle peut être dangereuse, parce que pas comprise. Donc je sais que dans ce genre d'institut, on apprend la langue des signes, sauf que par amour pour ma fille, je décide d'accepter. Mais le lieu dans lequel elle va aller, c'est un lieu qui cache des familles juives, donc qui permet en fait aux résistants de se cacher avant de repartir dans le maquis. Et petit à petit, comme le village, mon mari étant maire, doit de plus en plus dénoncer soit les jeunes garçons qui doivent partir pour la SPO.
Oui, ce qui se passe, oui, en fait, oui.
Et sauf que je vois mon mari basculer vers la collaboration, un peu malgré lui aussi, malheureusement. Et on voit tous ces personnages très tiraillés sur le fait de comment faire pour sauver sa famille, mais tout en n'essayant pas de dénoncer, ce qui est pour certains impossible.
Là, c'est inspiré de faits réels en plus. Et quand on imagine comment le personnage joué par Jonathan pouvait être tiraillé finalement entre ces deux chemins, c'est assez dingue de pouvoir découvrir en tout cas cette histoire.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on explore avec chacun des personnages l'attitude ou les choix moraux qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pendant l'occupation, on ne sait absolument pas comment on aurait réagi. Pour sauver sa famille, pour sauver sa peau, on n'était pas tous des résistants.
Oui, on avait et chacun réagit à sa façon.
Ce qui est intéressant, c'est de voir le dilemme de chacun. C'est comment ils vont réussir à... Est-ce qu'on peut trahir pour sauver sa famille ? Est-ce qu'on a le courage de se dire non, moi je veux absolument ne pas faire partie des gens qui collaborent, mais à quel prix ? Est-ce que je suis capable de ce sacrifice ? Mesurer le courage de chacun, finalement. Et comme là, on a le destin d'une religieuse, le destin d'une famille notable et le destin des jeunes qui allaient dans le maquis résister, on arrive à voir à quel niveau, en fait, ils pouvaient résister chacun.
Comment on pourrait définir Solange ?
Alors, c'est ce qui est assez magnifique, c'est Solange qui fait grandir Gisèle.
Mais oui, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est deux parts. Et en plus, comme elle lit sur les lèvres, elle voit ce que peuvent dire les soldats allemands dans les rues. Elle voit ce que les gens se disent à demi-mot. Parce que comme elle sait lire sur les lèvres, elle comprend très vite certaines situations. Et surtout, elle décide de prendre son destin en main. C'est-à-dire qu'elle arrive à affronter sa mère en lui disant « Je ne veux pas être comme toi, femme à la maison. J'ai envie d'un métier. J'ai envie de... » Et c'est un sacré choc à cette époque parce que l'émancipation, elle n'était pas donnée à toutes. Et d'ailleurs, cette guerre a permis à certaines femmes de s'émanciper malgré elles.
Ouais, c'est vraiment le parcours d'une jeune fille forte hein, et vraiment conquérante, je trouve.
Ah c'est non seulement ça, c'est que Harry, avec son handicap, décider de quand même prendre son destin en main et de montrer à sa mère une autre voie, en effet, c'est un modèle.
Alors justement, Gisèle, elle ne voit pas ça d'un bon œil hein, au départ, hein, qu'elle veuille rentrer dans cet institut. Et elle n'est même pas d'accord du tout, mais au fur et à mesure, elle va se laisser aussi convaincre petit à petit par Mère Madeleine et par Armand.
Oui, mais c'est tout à fait normal. Elle a élevé sa fille, elle l'a surprotégée, parce que j'imagine bien qu'en ayant un enfant sous-rémunéré, on est quand même obligé de traverser des périodes pour l'aider à s'exprimer, à trouver des solutions, sachant que ces écoles n'existaient pas, ou alors elles étaient comme elles étaient, en tout cas mal vues. Certains parents décidaient de plutôt s'occuper des enfants à la maison, qui avaient un certain handicap. Elle va être, malgré elle, obligée de céder. Et ce qui est assez beau dans le parcours de Gisèle, c'est quand elle va s'apercevoir que sa est en danger dans cet institut qui cache des juifs, elle va décider de basculer.
Et c'est ça qu'on va découvrir. Résistante.
Dans la résistance.
Ouais, dans la résistance, oui, c'est sûr. Résistante, en tout cas, c'est à ne pas rater. C'est mercredi et c'est à 21h05 sur France 2, sous la direction du grand Renaud Bertrand. Et je pèse mes mots, il est absolument extraordinaire comme réalisateur. Vous allez voir, une fois de plus, ce travail de folie qu'il a fait. Il y a un travail sur l'image, sur les costumes, surtout. C'est assez fou, de toute façon, dans cette fiction qu'on va découvrir. Merci beaucoup. En tout cas, Elodie, on termine par les projets.
Bonjour, merci à vous. Alors là, je suis toujours dans l'Injuste, au Théâtre de la Renaissance, ouais. Aux côtés de Jacques Weber.
D'accord.
Ah, c'est et bien. Après, je ne sais pas encore, il y a un film avec Jonathan Lambert qui s'appelle Flush, mais je ne connais pas encore sa date de sortie. Un film de genre.
Ok, à découvrir bientôt au cinéma.
Voilà, je vous tiendrai au courant.
Merci beaucoup, Elodie, en tout cas, et à très vite.
Merci à vous. Au revoir, bonne journée.
C'était une femme tellement courageuse.
Ma mère ?
Bienvenue parmi nous, Solange.
Vous savez qu'il a été nommé par Vichy ?
Je vais m'occuper de sa fille.
Vous devez fuir, vous avez été dénoncé.
Je veux savoir qui les a prévenus.
Si tu sais quelque chose et que tu te tais, tu seras complice, Armand.
Je supporterai pas que tu dénonces quelqu'un.
Arrêtez-vous !
Mon Dieu.
Nous n'avons rien à cacher.
On a toujours quelque chose à cacher.
Tu devrais te méfier, Armand. Il faut les surveiller, nos filles.
Il va falloir qu'on se parle tous les deux.
Résistante, au nom du père, du fils et des secrets d'une époque troublée. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Notre coup de cœur télé est consacré évidemment à Léo Mattei avec le grand final de cette 12e saison inédite sur TF1 jeudi soir à 21h10. Il est l'un des héros, évidemment, le quator des enquêteurs, le commissaire Daguerre depuis maintenant 3 ou 4 saisons même. Hein. Stommy Bugsy est notre invité. Bonjour Stommy.
bonjour, salut, ça va ?
Oui, ça va très très bien. Écoute, on était très heureux de t'avoir. En tout cas, tu venais quasiment d'arriver dans la série. Et puis c'est une belle histoire qui continue avec Jean-Luc en tout cas.
Ouais, ça le fait, hein. Ça fait bien, on s'éclate bien à tourner. C'est une belle petite équipe que Jean-Luc Reichmann il a monté tout autour de lui, avec sa bienveillance, sa force, son naturel. Et c'est vrai que c'est en même temps, on fait notre métier d'acteur, mais en même temps, c'est pour la bonne cause. Protection de l'enfance, brigade des mineurs. C'est tellement important de protéger nos progénitures, nos enfants, qui vont faire tourner le monde de demain, et de s'occuper aussi des personnes âgées. C'est le plus important, les enfants et les personnes âgées. Nous, on est dans la force de l'âge, donc il faut veiller sur nos plus jeunes et nos plus âgés.
Stommy, il y a 15 jours, Maïra nous disait qu'il y avait une ambiance très famille, en fait. Nathalie et Jean-Luc instaurent une ambiance très familiale sur ce tournage.
Bah oui, c'est vrai que Jean-Luc Reichmann, il a ce côté-là très protecteur, très bienveillant. Il fait attention aux moindres détails sur le tournage. S'il y a une petite embrouille entre les techniciens, entre les acteurs, il va téléphoner le soir, il va envoyer des mails, voir si tout va bien. Sa compagne Nathalie aussi. Ils ont créé cette série ensemble. Ça devient quelque chose de très familial et de très protecteur.
Et il y a des super rencontres parce qu'il y a vraiment des super guests dans chaque épisode. Et puis ces deux derniers qu'on va voir évidemment jeudi vont pas couper à la règle. Mais en tout cas, vous avez vu défiler encore du sacré beau monde, hein, tous, hein, en tout cas cette saison.
Ouais, il y en a plein à chaque fois. Hein. Il y a du Natacha Saint-Pierre, il y a du Enrico Macias, ça bombarde de partout. Parce qu'en fait, moi, je suis pas dans toutes les... Je suis souvent dans le commissariat, donc je vois pas à chaque fois. Donc des fois, j'aperçois des nouveaux guests qui arrivent. Moi-même, je suis étonné à chaque fois.
Et oui, t'as moins de scènes extérieures, toi, mine de rien. T'aimerais, justement, aller un peu plus sur le terrain dans la série ?
Oui, mais ça va, ça me convient bien d'être le patron. C'est très bien.
Bah oui, monsieur le commissaire, quand même.
Ah oui, quand même.
C'est pas mal. Comment il est justement pour quelqu'un qui aurait jamais regardé Léo Mattei? Comment il est le commissaire Daguerre vu par Stommy Bugsy?
Je dirais qu'il est obligé d'en faire plus, vraiment, d'en rajouter, d'en faire un peu des caisses. Parce que Jean-Luc Reichmann, Léo Mattei, qui a des méthodes un peu, des méthodes pas très catholiques pour attraper les méchants. Et moi, je représente la loi pure et dure. Je veux faire régner l'ordre, la loi et la justice, mais en suivant les règles. Et souvent, Monsieur Léo Mattei fait des petits coups en douce pour attraper les méchants. Donc, et le fait que mon personnage, le commissaire Daguerre, il est arrivé à la traîne, il est arrivé après. Donc, Léo Mattei, c'est vraiment lui, même si c'est pas le commissaire, c'est lui vraiment le patron du commissariat. Mais moi, comme je suis le commissaire, je suis plus jeune que lui, je viens d'arriver, je suis obligé de m'imposer encore plus. Et en plus, même dans la vraie vie, étant donné que Jean-Luc Reichmann, Léo Mattei est le patron de la série, c'est lui qui l'a créé avec sa femme,
ben
il est
ça.
Le coproducteur, et c'est le héros de la série. Et donc, des fois, sur le tournage, bon, il donne des conseils, il check un peu tout. Mais par contre, quand la caméra sonne l'action, c'est moi qui dois devenir le boss tout de suite. Et voilà, c'est le challenge de la série.
C'est ça qui est génial. T'as un meilleur souvenir à nous raconter peut-être de ces 3-4 années que t'as déjà passées là, au sein de cette brigade?
Bah, là, cette année, le commissaire, il lui arrive des belles choses cette année. Il lui arrive des belles choses. En France, c'est chaque fois que je vais là-bas, à Port-de-Bouc, on est bien traité, on tombe dans le petit village de Port-de-Bouc à côté de Marseille, vraiment bien.
Bon, mon cher Stomy, c'est pas le seul rôle que t'as repris. 22 ans plus tard, tu as retrouvé Michael, dis-moi, dans 4-0, après 3-0, 4-0 de Fabien Antoniente. Et ça tombe bien parce que si vous ne l'avez pas vu au cinéma, 4-0, ça vient de sortir il y a quelques semaines en DVD et en VOD. Donc la séance de rattrapage, il n'y a aucune excuse pour personne. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'était une belle aventure de retrouver le personnage de Michael Sylvain avec Gérard Lanvin et Fabien Antoniente qui est un réalisateur complètement génial et fou et passionné. C'est un des réalisateurs les plus passionnés avec lesquels j'ai tourné. C'est marrant de retrouver l'équipe.
Bah oui, c'est
pas assez de jour de tournage. J'étais un peu frustré.
Bah oui.
J'étais un peu frustré, mais ça m'a fait plaisir.
Et t'as composé une partie de la bande-son, là?
Oui, j'ai fait le scoring du film. J'ai fait au moins 8 chansons dans le film.
Voilà, c'est pratique d'avoir un rappeur dans ses acteurs, quand même. Super challenge. Bon, dis-moi, Stomy, ça fait 10 ans qu'on attend depuis ton dernier album. Alors?
Bah, figurez-vous que j'avais terminé mon album.
Ouais.
J'avais terminé il y a 6 mois. Mais, voilà, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie et maintenant il faut que je change un peu. Il faut que je fasse de nouveaux morceaux pour les mettre dans l'album.
Dans l'album? Extérioriser tout ça?
Voilà, dans le mood dans lequel je suis maintenant. Donc je vais garder des morceaux que j'avais fait avant et je vais en faire des nouveaux.
Bon, 2026 probablement.
Ouais.
On va suivre ça avec attention en tout cas et on sera à tes côtés.
Merci
beaucoup en tout cas Stomy d'avoir été avec nous, Stomy Bugsy, que vous retrouverez donc jeudi soir à partir de 21h10 évidemment dans Léo Mattei, le grand final avec l'épisode 5 et 6 de cette 12e saison inédite. Et puis vous pouvez également le retrouver dans 4-0 en DVD et VOD, ça vient tout juste de sortir, alors profitez-en pour la séance de rattrapage si vous n'avez pas vu la suite de 3-0 encore. Merci beaucoup Stomy Bugsy, à bientôt.
À bientôt, merci pour l'interview, à bientôt, ciao.
Ça va mon cœur? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce gamin, c'est des choses qu'il ne peut pas ou qu'il ne veut pas nous dire.
On ne sait pas ce qui se passe dans les familles.
Ni dans la tête des enfants.
Bah allez, vas-y, balance, je sais que t'as flashé sur elle.
Tu sais, la dernière fois que j'ai vu un flash, c'était sur ma moto, avec un radar.
On bosse ou on fait une pyjama party?
Inédit, Léo Mattei, jeudi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Allez, le capitaine Marlowe revient pour une enquête inédite vendredi soir à partir de 21h05 sur France 2. Et justement, José Daillon est avec nous. Bonjour José, merci d'être là.
Ben merci de m'appeler, voilà.
Et ben en tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir, José, pour cet épisode inédit intitulé « La septième danse ». Il faut dire que c'est un épisode très particulier qu'on va pouvoir voir, puisque c'est un épisode hommage à Émilie Dequesne, qui offre ici son dernier rôle. J'imagine l'émotion que ça a pu être aujourd'hui, déjà de la savoir malade, et de lui avoir offert cette dernière partition qu'elle nous offre dans cet épisode.
C'est-à-dire que au moment où j'ai commencé le casting de la septième danse, Émilie Dequesne était en émission et curieusement, elle avait dit à son agent Daniel Guin, écoute, j'aimerais bien faire un Marlowe. Bon, alors Daniel m'appelle. Évidemment, moi j'étais en santé, je la rencontre. Elle sortait de chimio, donc elle avait très peu de cheveux. Et elle me dit, est-ce que vous voulez que j'ai une perruque? J'ai dit non, ça vous va très bien, cette coiffure, on dirait Falconetti dans Jeanne d'Arc. Donc elle était déjà soulagée de pas avoir de perruque. Et puis, elle avait cette espèce de plaisir de retourner sur un plateau, de à nouveau faire son métier. Et puis elle était dans une espèce d'optimisme, si vous voulez, puisqu'elle était en rémission. Et elle a été lumineuse pendant tout le tournage et extrêmement courageuse parce que elle était quand même assez affaiblie par un traitement très lourd. Et moi, j'essayais évidemment de l'aménager sans le lui dire parce qu'elle voulait absolument être là en permanence. Et hélas, après le tournage, elle est partie donc en vacances en Corse puisqu'elle est mariée avec Michel Ferracci qui est corse et qui d'ailleurs est dans le film. Et elle aimait beaucoup la Corse. Et elle m'a dit, j'ai demandé comment ça se passait. Elle m'a dit, écoute, il va falloir que je refasse des examens après les vacances. Et à partir de là, ça a été à nouveau une espèce de
descente aux enfers.
Ouais. Une descente aux enfers, oui. Vraiment, c'est. Alors, ce que je sais et qui évidemment est assez réconfortant, si j'ose dire, dans une situation comme celle-là, c'est que le fait d'avoir tourné après un an et demi de traitement très violent a été pour elle une embellie. Et d'une certaine manière, je suis heureuse d'avoir participé à cette embellie. Voilà.
Eh ben oui, ça fait partie aussi de la rémission, du moral, ça fait partie de tout ça, hein, de pouvoir retrouver ses marques et son métier qu'elle affectionnait tant. Et elle y joue le rôle de Véronique, une prof de danse qui voit sa fille disparaître. Alors que se passe-t-il? Le capitaine Marlowe, en tout cas, vient enquêter parmi un festival de danse. Il y a tout plein de guests, en tout cas, dans cet épisode, qui est relativement joyeux. Il y a beaucoup de danse de salon, de choses comme ça aussi, de scènes de cette façon-là. Et puis...
Oui, en fait, des danses latino, quoi.
Oui. Exactement, et puis Marlowe avec la gouaille qu'on lui connaît, évidemment, toujours pareil.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
José, est-ce que Corinne, souvent, est-ce que c'est très écrit ou est-ce qu'elle envoie des répliques des fois qui sont improvisées?
Les scénarios sont évidemment très écrits, mais elle intervient sur ses dialogues à elle, voilà.
Bon, c'est chouette en tout cas de pouvoir voir cette nouvelle enquête. Alors il y a un très beau casting hein, autour justement d'Emilie. Hein. Il y a Amint Audiard, Grégoire Bonnet, enfin il y a vraiment tout plein de beaux mondes.
Hein. Oui, Christopher Thompson, oui, plein de gens, oui.
J'ai aperçu Nicole Sonneville.
Bah, elle danse, elle dansait, voilà. Parce qu'on avait une école donc de danse latino. Et Nicole était là ce jour-là et je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu peux danser, voilà.
Oui, j'ai vu, elle a dû s'amuser justement dans cette scène. C'est une attachée de presse très connue pour le coup, donc je l'ai aperçue. Et il y a Caroline Margueridon aussi dans cet épisode. Hein.
Oui, qui est très charmante, oui. Il y a beaucoup de présence, Caroline. C'est pour ça que j'ai demandé de tourner avec moi, oui.
Les enquêtes du capitaine Marlowe sont toujours bien ficelées. On nous emmène souvent sur des fausses pistes, on nous emmène sur vraiment des chemins voilà qui peuvent nous donner à chaque fois, du coup, dénouement totalement inattendu. Et c'est vrai que celui-là n'échappe pas à la règle. Hein. On s'imagine pas du tout ce qui va se passer à la fin.
Écoute, il vaut mieux pour un polar qu'il y ait des fausses pistes, vous voyez. Parce que c'est ça qui est aussi amusant pour les spectateurs. Indépendamment de la particularité de Marlowe. Parce que Marlowe sont bien sûr des enquêtes. Mais c'est surtout qui est intéressant pour moi dans Marlowe. C'est à la fois la qualité des guests, qui sont toujours des guests assez rares à la télévision, si vous voulez. Et la personnalité de Corinne.
Marlowe et Alex Hugo sont les deux unitaires aujourd'hui qui cartonnent le plus sur France Télévisions. Est-ce que ça met une petite pression ou est-ce que ça donne une exigence de jamais décevoir le public et de faire toujours aussi bien?
Indépendamment des audiences qui sont évidemment agréables, on a toujours, enfin moi en tout cas, j'ai toujours le désir d'être exigeante et de satisfaire le public, oui, bien sûr, c'est la base.
Mais oui, c'est vrai, ça a toujours été. Est-ce qu'il y a d'autres projets, José, qui arrivent pour vous bientôt?
Ben oui, bien sûr, je viens de terminer à Marlowe et on va en faire un autre en septembre, je crois. Voilà, et là, je vais démarrer un pilote dont je vous dirai un petit peu plus dans quelques jours, d'un pilote qui n'a rien à voir avec Marlowe, voilà.
Toujours un plaisir, justement, de pouvoir réaliser ces capitaines Marlowe. Vous êtes, pour le coup, le capitaine de ce navire depuis le début de chaque épisode. Et c'est vrai que, voilà, ça doit être vraiment un plaisir. Vous devez vous connaître par cœur, toutes les deux, avec Corinne, aujourd'hui.
Ah bah oui, ça fait quand même à peu près 10 ans qu'on travaille ensemble, oui.
C'est assez
dingue.
Quand
j'étais rencontré sur les Varias, qu'elle faisait Violette Rotencourt. C'est là que j'ai connu Corinne. Oui. Donc, c'était avant Marlowe.
Ça a été un coup de foudre artistique entre vous deux?
Ah non, ça a été un intérêt artistique. Voilà.
D'accord. Bon, en tout cas, José, on va suivre cet épisode.
C'était intéressant de la rencontrer, de voir sa personnalité. Et j'ai eu l'idée de lui proposer de faire le capitaine Marlowe. Voilà. Parce que je sentais qu'elle était différente et qu'elle apporterait un univers particulier.
Quelle bonne idée.
Voilà.
C'est clair. En tout cas, Corinne sera notre invitée d'ailleurs lundi prochain, puisqu'il y aura un autre épisode inédit intitulé L'ami français qui sera diffusé le 16 mai prochain.
Absolument,
donc Corinne sera avec nous lundi prochain pour en parler. En tout cas, voilà, on dédie ce moment, José, ensemble à Émilie Dequesne, qu'on retrouvera
Absolument.
Donc dans cet épisode inédit qui s'appelle La septième danse, qui sera diffusé vendredi à 21h05 sur France 2.
Et où d'ailleurs Émilie est merveilleuse.
Elle est lumineuse.
Elle est lumineuse, elle est émouvante, enfin, c'est une grande actrice, donc, voilà.
Mais oui. Et vous allez voir, il y a plein de secrets de famille qui vont rejaillir, ça va lui donner une partition voilà très émouvante effectivement. Et voilà, je vous invite en tout cas vraiment voilà découvrir son dernier rôle qu'on va voir
avec,
voilà, avec bienveillance. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, José. Tout de suite la bande annonce du capitaine Marlowe.
Merci.
1, 2, 3. Bravo, hein, je vois que vous ne l'avez vraiment pas perdu depuis l'année dernière. C'est parfait, vous pouvez être fiers de vous, je vous applaudis. Alors, cette année, on va apprendre une nouvelle danse qui est le cha-cha. Alors vous verrez, c'est pas très compliqué, hein, vous savez déjà le tango, le mambo, la rumba, la salsa, le calypso, le paso. Et avec le cha-cha, ce sera donc la septième danse que vous apprendrez. Et oui, bravo. Et ce sera donc le cha-cha que nous allons danser pour le grand bal qu'on donne à la fin du festival. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Vous êtes d'accord ?
Oui.
Et cette année, il y a une grande nouveauté. Ce sera ma fille, Bérénice, qui va nous accompagner à la guitare. Et oui, je sais, ça ne me rajeunit pas.
Et notre coup de cœur télé consacré évidemment au grand retour de votre série Le Voyageur, qui débarque pour une nouvelle salve d'épisodes inédits dès samedi à 21h05 sur France 3. Bruno de Brandt est aux commandes de cette série dans le rôle principal de Kandinsky. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous.
Bonjour à tous, bonjour, merci à vous de m'inviter.
Écoute Bruno, t'es un habitué de l'émission, ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Cain, et ça fait deux séries qui se succèdent sur France Télévisions pour toi avec deux beaux projets qui cartonnent, c'est plus de 5 millions de téléspectateurs sur les derniers épisodes du Voyageur, c'est dingue.
Oui, c'est dingue, c'est un privilège d'avoir la confiance et des chaînes, et surtout du public. Oui. J'essaye, moi, de choisir des projets auxquels je crois, et moi, je suis un spectateur avant tout, donc j'aime choisir les projets dont le cahier des charges, en fait, me convainc, et je sais que ça fera plaisir aux spectateurs. Et le Voyageur, voilà, Cain, c'était inédit, c'était le destin d'un homme... c'est le traitement d'un paradoxe avec surtout une histoire d'inclusion. Donc il y avait un héros comme ça un peu Don Juan et un scapin. Donc il y avait vraiment de quoi faire. L'écriture était vraiment parfaite. Et le Voyageur, là on est dans des unitaires de 90 minutes avec tout un hors-champ et qui est pour moi le projet idéal post-Covid. J'étais sûr que le public entendrait toute cette réflexion, ce débat sur les liens, sur les choses essentielles, sur l'argent, sur le temps qui passe, sur la reconstruction des individus. Et donc, au-delà du film policier, il y a tout ce débat dans ces Voyageurs. On est dans un voyage initiatique, donc une réflexion sur la société. C'est un type quand même qui quitte son métier parce qu'il a l'impression qu'il ne sait plus comment le faire correctement et qui voyage et qui, au gré de ses voyages, continue à faire son métier, un peu en dehors des lignes, mais il continue à le faire avec passion.
Et il va retrouver Élise.
Ça me parle et je sais que ça parle au public.
Ben oui, puis il va retrouver Élise dans ce nouvel épisode évidemment inédit qui va lui sauver les fesses encore une fois de plus, évidemment.
Ben oui, ce film est très beau parce que il démarre sur une fin de voyage en fait. On a l'impression que c'est la fin du voyage. Ça aurait pu être le dernier film des Voyageurs si on l'avait programmé comme ça. Il est saisi par l'IGPN, par la police des polices qui lui dit bon ben ça va bien de faire le justicier, mais ça c'est pas permis par la loi, donc vous arrêtez vos bêtises. Vous avez plein d'armes non conventionnées, vous chassez, vous braconnez, enfin bref. Alors que vous êtes en disponibilité, vous avez quand même des comptes à rendre. Et Masséna vient lui sauver les fesses, comme vous dites. Et donc du coup, ce qui est très joli, c'est que ça bascule dans l'intime. Ils se partagent quelque chose. Et tout d'un coup, on apprend que, et c'est la femme oubliée, que Masséna est envahi par un rebondissement dans le destin de sa mère.
Oui.
Et donc, on va aller à la recherche de... qu'est-ce qui est arrivé à sa mère. Et donc, du coup, c'est un éclairage sur ce personnage de Masséna qui est toujours un peu dans l'ombre, comme ça, puisqu'il n'y a pas vraiment de récurrence sur le Voyageur. C'est ça qui est intéressant aussi dans le projet. On voit chaque fois des nouvelles régions, des nouveaux acteurs, des nouvelles têtes. Il n'y a pas tout un tas de personnages périphériques qu'il faut nourrir à l'écriture et donc qui détournent parfois les vrais propos de fond. Là, on a un vrai rapport intime avec une découverte du personnage de Masséna. On va un peu plus profond sur sur le rapport mystérieux et assez joli qu'on arrive à conserver avec beaucoup de profondeur, je peux pas le dire autrement, il est très beau ce film.
Oui, la particularité de l'épisode quand même, c'est qu'il démarre presque 40 ans en arrière, hein, en 86 à Lucin, dans le Grand Est, ouais. Où on va découvrir que la mère d'Élise se fait assassiner. La mère d'Élise qui est jouée par Julie Boulanger, qu'on est très heureux en tout cas de retrouver aussi dans cet épisode. Donc c'est là, au moment où Élise va lui sauver un peu les fesses, qu'elle va lui dire, va lui expliquer un peu ce qui s'est passé, va décider en tout cas Kandinsky d'essayer de tenter de reprendre l'enquête. Et faut dire qu'à Lucin,
oui.
Exactement, il va retrouver une population très hostile hein, quand même sur place à Lucin.
Oui, alors hostile, elle paraît toujours hostile, mais il y a aussi toutes les belles rencontres. C'est-à-dire que quand on va dans des régions reculées, ben, les gens ont l'habitude d'être un petit peu sur leur camp à soi et c'est la peur de l'étranger, quoi, toujours, quel qu'il soit, qu'ils viennent de la région voisine ou du pays voisin. Donc les gens sont hostiles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie qu'on vienne fouiller dans leurs affaires. Alors là, évidemment, il va très très vite se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose de viscéral dans cette petite région. Et qui lie en fait tous les personnages qui gravitent autour du destin de la mère de Masséna.
C'est ça, une espèce de petite communauté, oui.
Oui, une communauté, oui. Ils sont très beaux encore. Hervé Corian, il a cette habileté incroyable en quelques séquences, en quelques scènes, de dessiner comme ça les personnages avec tous chacun une vraie profondeur, une vraie psychologie. Donc c'est très agréable pour les acteurs qui viennent les servir. Et c'est très agréable pour le public qui n'a pas l'impression qu'on fait de l'interrogatoire et qu'on dirige simplement des enquêtes sur des propos techniques. On a affaire à chaque fois à des vrais destins. Même quand ils croisent la route du voyageur, ne serait-ce qu'une séquence, elle est toujours riche. En très très peu de temps, on dessine celui qu'on pourrait reconnaître comme son voisin, où que ce soit, où qu'on soit, où qu'on habite.
En tout cas, ça va pas être une enquête de tout repos pour Kandinsky, hein, qui va avoir bien à faire pour tenter d'élucider un petit peu tout ce qui s'est passé, surtout qui risque bien d'y laisser quelques plumes aussi. Donc, il va falloir qu'il soit très prudent, en tout cas, dans cette histoire, ce personnage qu'on va découvrir.
Très prudent, ben oui.
Mais bon, comment
c'est ? Il y va toujours lui avec son cœur et là
bah oui.
En plus on est dans l'intime, on est dans l'amitié, il veut vraiment aller au bout du secret des secrets, donc forcément il prend des risques, ouais.
Mais bon, on sait qu'il y a un autre épisode inédit samedi d'après, donc on est rassuré. On sait qui.
Il va survivre.
Ouais, exactement. Bruno, tes projets, est-ce que en dehors justement du voyageur, j'imagine qu'il y a d'autres choses qui arrivent bientôt?
Oui, bah là je suis au théâtre depuis le mois de janvier et je vais terminer le 1er juin, donc. Je suis encore au théâtre le mois de mai à Paris.
Ah oui.
Et puis, et ça se passe merveilleusement bien, on est très heureux. Et donc, ensuite, j'enchaîne avec un voyageur. Je repars, pour le coup, dans la région de Lille, tourner un autre voyageur et on en aura un autre à l'automne. Donc, ça, c'est les projets à venir. Après, j'ai des activités personnelles sur des projets que je construis, d'écriture et de production. Et donc, voilà, j'ai de quoi faire.
Bon.
Et surtout mes enfants.
C'est déjà beaucoup. Bruno, en tout cas.
Je conserve mon été pour les enfants.
Exactement. On te retrouve aux côtés de Maëlle Mieton, évidemment, qu'on adore, hein, samedi, dans le rôle d'Élise Masséna, Julie Boulanger, Patrice Vallotta, Richard Gage et bien d'autres encore. On te retrouve donc, ouais. En tout cas, dans cet épisode qui a été écrit par Hervé Corian et réalisé par notre ami Philippe Dajou. Justement.
Absolument.
Donc, c'est samedi à 21h05 sur France 3. Le rendez-vous à ne pas rater. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Et à bientôt.
À bientôt.
Tu me reproches quoi, au juste ? D'obtenir des résultats ?
Kandinsky, t'es en disponibilité de la police. T'es un simple citoyen, donc, les affaires classées ou pas, elles ne te concernent pas.
En France, un simple citoyen a le droit d'enquêter, du moment qu'il n'interroge pas un témoin direct de l'affaire.
Mais sauf que tu les interroges, les témoins, direct ou indirect. T'enquêtes partout en France. Tu te balades avec un flingue. Tu possèdes un fusil de chasse et une carabine alors que t'as pas du tout le permis pour ça. Tu circules dans un véhicule sans contrôle technique, t'as pas réglé ton assurance auto. Et donc, pour couronner le tout, tu déclenches une fusillade à proximité d'une école, tu tires sur un civil et tu le blesses.
Ton civil, il s'apprêtait à enlever une élève. Tu sais qu'il est en provisoire pour viol sur mineur et séquestration. T'as des gosses ?
C'est pas la question.
Bien sûr que si, c'est la question.
Allez, ne bougez pas, l'équipe du film De Mauvaise Foi débarque dans Chute, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas, Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai qui parle fort et qui a des pecs. Qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer, et qui s'empêchent de pleurer. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles, elles saignent aussi. Désolée les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné en salle mercredi, ça s'appelle De mauvaise foi. C'est un film signé Hubert de Torcy à la production et Albéric Saint-Martin à la réalisation. Ils sont avec nous pour démarrer cette spéciale. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Et on va être rejoint par toute une pléiade de comédiens juste après. On va être rejoint notamment par Pascal Demelon, Philippe Duquesne, et puis des comédiennes talenteuses qui jouent mère et fille dans le film, qui s'appelle...
Alors, il y a Romane de Stavenrath qui joue la fille, et Erad von Meyer qui joue la maman.
Et on va passer un bon moment, je peux vous dire, avec vous tous, pour parler de cette comédie. L'histoire d'un homme qui, avec son château, a quelques difficultés, on va dire, financières, et pour le sauver, il va rien trouver de mieux que d'essayer, alors pas d'escroquer une héritière, mais en tout cas, essayer de retrouver l'héritier de cette comtesse, hein, c'est ça, je crois, si je me souviens bien.
Exactement, il va, on va dire, essayer de tourner un peu l'héritage à son propre avantage en essayant de mettre dans les pattes de sa propre fille ce fameux héritier. Voilà, ça pourrait arranger tous ses problèmes.
Mais tout ne va pas se passer comme prévu parce qu'évidemment, cette jeune fille est déjà très amoureuse d'un homme joué par François-David Cardonnel qui est exceptionnel. Vous allez l'adorer, votre aventurier de Koh-Lanta. Vous allez voir qu'il donne pas mal, là. Et vous allez voir qu'il est bien affect, et bien imbu de sa personne dans le film. Il est délicieux, franchement. Comment est venue l'histoire du film en premier? Qui c'est qui a envie de nous donner un peu la genèse du projet Hubert?
Alors, la genèse, en fait, c'est des ricanements dans mon lit conjugal où ma femme lisait le roman Les pieuses combines de Réginal, d'où est tiré le film. Et je l'entendais, mais se marrer en permanence au fur et à mesure des pages. Ce qui a piqué ma curiosité, donc j'ai lu le roman et j'avoue que j'ai trouvé ça savoureux, plein de rebondissements, plein de tendresse aussi pour il y a un peu une comédie, une satire un peu sociale dans ce roman et du coup dans le film. Et je me suis dit mais là il y a tous les ingrédients d'une comédie amusante, savoureuse et voilà, donc j'ai commencé par acheter les droits d'adaptation, j'ai commencé à travailler un premier jet qui était pas très réussi d'adaptation du roman et puis on a découvert en fait le travail d'Albéric Saint-Martin qui avait réalisé un premier court-métrage très joli et un peu dans l'esprit du roman et du film que j'imaginais qu'on pouvait tirer de ce roman. Et donc voilà, on s'est rapproché d'Albéric et puis on lui a demandé s'il voulait bien voilà retravailler avec moi l'adaptation du roman. Et donc voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré.
Et Albéric est arrivé dans cette aventure. Qu'est-ce qui t'a plu en premier, Albéric?
Moi, c'est marrant. Enfin, cet univers m'a, je me suis dit que j'étais un petit peu familier de ça. Le court-métrage que je venais de réaliser parlait aussi d'un jeune artiste, un petit peu comme ça, fantasque, qui n'avait pas les codes, qui essayait un petit peu de s'attaquer à une forteresse imprenable qui était une jeune fille qui l'apercevait par sa fenêtre, etc. Et donc, effectivement, retrouver un petit peu des petites thématiques dans ce film-là. Et après, effectivement, j'ai beaucoup aimé le roman, son côté fantasque, loufoque, et puis aussi, sans avoir l'air de trop, aborder de choses sérieuses, de parler de choses un peu plus sérieuses justement, donc aborder la thématique de la foi, de la relation père-fille, mère-fille. On aimait bien ce couple savoureux du notaire et de son clerc de notaire. Voilà, on se disait qu'il y avait matière à avoir une bonne comédie.
Une bonne comédie, c'est sûr. La comtesse m'a fait énormément rire parce que franchement, au moment où elle se dit en train de mourir, c'est vraiment, la scène est très très drôle. Vous verrez, c'est très très paradoxal ce que je suis en train de me dire, mais vous verrez quand vous verrez le film. Et puis chaque personnage a son importance, que ce soit Philippe Duquesne qui est le bras droit justement du personnage de Pascal, qui lui est notaire.
Donc oui, Pascal de Belon joue un notaire qui s'appelle Réginald de Levaillant. Réginald, donc c'était le titre originel du roman, c'était les pieuses combines de Réginald. Donc Réginald de Levaillant, il est un petit peu filou, un petit peu combinard, mais c'est quelqu'un de bon, voilà, qui est peut-être un petit peu tiraillé par la mauvaise foi, mais il y a beaucoup de ces combines qui vont un peu se retourner contre lui dans le film. On a le personnage donc du coup de son clerc de notaire qui est joué par Philippe Duquesne. Il s'appelle Edmond, assez fantasque, costume un peu coloré, il apporte un peu de couleur à cette étude notariale. Nous avons donc dans la famille Levaillant, nous avons Blandine Levaillant qui est jouée par Irad von Meyer. On va dire que c'est un personnage qui est très très sincère dans sa foi, très lumineuse. Elle apporte beaucoup de gaieté, beaucoup de dynamisme à cette famille. Nous avons le personnage de la fille, donc du coup Athénaïs Levaillant, qui est un petit peu la fille pour laquelle les deux héros masculins vont se battre, donc qui sont joués par François-David Cardonnel, qui est le personnage de Elliot Moulard, donc un peu le golden boy, banquier d'affaires imbuvable. Et en face, donc il y a cet artiste, le futur héritier, qui s'appelle Arthur Chamboursier, qui est joué par Jean-Baptiste Lafarge. Voilà, j'ai essayé un petit peu peindre rapidement toute la galerie de personnages de ce film.
Et à qui il va falloir évidemment lui faire absolument acquérir cette foi-là, puisque de mauvaise foi, on parle aussi de foi chrétienne dans le film, de manière évidemment drôle aussi, mais il y a vraiment ce jeu de mots dans le titre aussi.
Oui, c'est exactement ça, la mauvaise foi du héros, Réginald, d'ailleurs qui est accusé à un moment de manière caustique par Arthur est-ce que vous êtes sûr d'avoir vraiment la foi, parce que Réginald il est un peu ce notaire vieille France qui a été éduqué dans la foi catholique, qui pratique, mais d'ailleurs il est un peu taxé d'être un pratiquant non croyant, ce qui est assez original comme appellation et comme étiquette, mais c'est un peu effectivement ce qui caractérise bien ce fameux Réginald dont la foi est un peu molle au dire de sa femme Blandine. Et donc ce Réginald qui est pas vraiment donc une foi très très vive va entreprendre de convertir ce jeune Arthur, puisque c'est la condition pour qu'il puisse toucher l'héritage.
Ça fait un peu votre ville aussi, hein, de temps en temps, par moment.
Ouais, complètement. C'est vraiment, c'est cet esprit-là, un peu, effectivement, loufoque, votre ville, qui nous a bien séduit, effectivement.
J'imagine bien. On va en parler, évidemment, avec les comédiens dans un instant qu'on va continuer à accueillir. Un personnage aussi important, c'est ce château, finalement, dont on parle beaucoup tout au long du film, parce qu'il s'agit de le sauver, de le restaurer. Et évidemment, ce gendre tout trouvé, lui, ne compte pas en faire la même chose que Réginald. Alors, évidemment, ça va créer beaucoup d'animosité entre les deux hommes, quand il va savoir qu'en fait, le personnage de François-David veut tout raser. Donc voilà, on va découvrir, en tout cas, vous avez vu, j'ai bien suivi. Hein.
Bravo, bravo. L'intrigue est assez, comment dire, bien plantée. Il y a beaucoup de détails, vous avez tout retenu, bravo.
Le château, justement, c'est tourné où? C'est quel château? Qui a servi de décor?
C'est le château de Rambuteau, à Auzol, en Bourgogne. Pas très loin de Paray-le-Monial, où va se camper aussi une partie de la situation. Donc ça nous a permis de rester bien 3 ou 4 semaines dans cette région-là. On a adoré, c'était vraiment un moment de pur bonheur. Et on a trouvé vraiment un très très beau château. En fait, le château est magnifique, le parc est incroyable. Et c'est un château comme on le cherchait, c'est-à-dire vraiment dans son jus. Pas retapé, pas complètement en ruine non plus, mais on voit quand même que Réginald a du mal à entretenir, quoi.
On va continuer à en parler dans un instant. On va voir aussi comment Réginald va essayer de mettre cet héritier sur la route de sa fille. Ils vont s'embarquer pour une épopée à travers une espèce de retraite ou de stage catholique qui va nous faire évidemment beaucoup rire. On va écouter la bande-annonce, ça s'appelle De mauvaise foi, c'est mercredi au cinéma. Et on continue à en parler avec nos héroïnes. Blandine et Athénaïs, les deux comédiennes, nous rejoignent dans un instant. À tout de suite. Merci beaucoup Hubert et merci Albéric, à tout de suite. Merci.
J'ai invité Elliot pour le déjeuner.
C'est qui?
Bah Elliot.
Ah, Elliot, quelle belle idée ma chérie.
Réginald, il faut que tu lui parles avant qu'il ne soit trop tard.
L'heureuse élue ne vous convient pas, Blandine? Il fallait qu'elle ait trouvé un golden boy anticlérical qui bouffe de la charcuterie le vendredi, ça.
On a une annonce à vous faire.
On va se fiancer. Félicitations.
Et on continue notre spécial de mauvaise foi avec Roman de Stabenrath, qui joue le rôle donc d'Athénaïs, dont on vient de parler un instant. Bonjour Roman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a également Erad Van Meyer qui est avec nous, qui joue la maman Blandine. Bonjour Erad.
Bonjour.
Et puis alors, une jeune fille que je suis bien content de retrouver. J'étais sa première interview radio. J'ai Cyrielle Massengo qui est avec nous, qu'on avait rencontré au festival de Luchon, qui est là aussi. Bonjour, j'ai Cyrielle.
Bonjour.
Comme quoi, les festivals, ça fait faire de belles rencontres, n'est-ce pas? Et toi, tu joues le rôle d'Eden. On va parler un petit peu, donc, on a planté un peu le décor avec producteur et réalisateur. On va parler, bien sûr, de vos rôles. Et on va commencer par toi, Roman, et celui d'Athénaïs, qui est donc cette jeune fille que son père essaye de mettre cet héritier sur sa route, alors qu'elle est déjà en couple avec François-David Cardonnel, qui est absolument imbuvable. Mais on adore tellement ce comédien. Il est absolument génial. Roman, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a plu, en tout cas, dans ce rôle, déjà?
Bah, je crois que, on dirait pas, mais je pense que c'est l'indépendance, en fait, d'Athénaïs. Parce qu'elle arrive quand même dans une famille qui a l'air assez, avec des parents qui sont assez autoritaires et tout ça. Et puis, elle impose quand même ce garçon qui n'a pas l'air de plaire vraiment à ses parents. Et voilà, je trouve qu'elle a une force de caractère qui va être un peu après mise à mal aussi par l'arrivée d'Arthur. Mais ouais, j'aime bien sa force de caractère, j'aime bien qu'elle est quand même elle reste dans la ligne de ses parents, parce qu'elle a la foi, elle est dans la prière, tout ça, mais on sent qu'elle a vraiment son chemin à elle, quoi. Ça, j'aime bien.
Le rôle Erad de Blandine, alors c'est quand même une femme qui est relativement pieuse, hein, qui est très croyante, pratiquante dans cette famille, et qui voit pas toujours d'un bon œil ce que son mari est en train d'essayer de faire.
Ah oui, ça c'est vrai. Non, il y a des choses qui ne lui plaisent pas du tout. Elle aussi, elle a du caractère, donc je pense que voilà, les chiens font pas des chats, voilà. Comme Réginald en a beaucoup aussi du caractère, c'est sûr que voilà, on a une fille qui a du caractère. Elle est fâchée contre lui à certains moments, et elle lui dit quoi. Elle a pas sa langue dans sa poche.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle justement, Erad?
Ben, je trouvais intéressant de montrer un personnage qui à la fois, qui a fond dans sa foi. C'est assez rare en fait de voir des personnages comme ceux-là à l'écran. On imagine un peu les croyants comme des grenouilles de bénitier un peu, qui font des bondieuseries, oui, mais ça n'empêche que elles ont du caractère, elles peuvent être pittoresques et drôles, et enfin j'espère que je serai un peu drôle. Mais non, j'ai pu trouver intéressant de les voir dans leur jus. Enfin, il y a un petit côté un peu côté documentaire peut-être aussi sur ces gens-là qui sont je trouve très attachants.
J'ai Cyrielle, on va parler de Eden. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Eden? Qu'est-ce qui t'a plu en elle, en tout cas?
Alors Eden, du coup, c'est la meilleure amie d'Athénaïs. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le fait de pouvoir suivre un peu ce triangle amoureux et pouvoir lui donner des conseils. Et au-delà d'être juste une simple copine qui donne des conseils un peu comme ça, c'est vraiment une copine qui a la foi et qui essaye de toujours être positive et de l'emmener, on va en prière ensemble, etc. On peut même imaginer qu'on a prié ensemble sur ce sujet, hein, au tout point nous en sommes. Et j'aime vraiment beaucoup le fait de faire ressortir la foi, comme a dit Erad, dans le nouveau jour en fait, vraiment un peu plus où... Bah oui, on peut être croyant, mais il y a aussi des histoires, il peut y avoir des histoires d'amour, il peut y avoir de la compétition, mais tant que ça reste fair play, mais bon, de mauvaise foi comme c'est dit, voilà.
Ça porte bien son nom. Et d'ailleurs, Roman, tu es souvent le théâtre de scènes absolument ubuesques, voire lunaires, entre Arthur et Elliot quand même.
Mais je n'y suis pour rien, moi. Oui, c'est sûr que les deux garçons, on assiste à des combats de coqs assez, assez complexes. Mais ouais, c'est Athénaïs, elle est un peu spectatrice de ça. Je sais pas si ça lui plaît, mais en tout cas, ça la fait rire au fond, je pense. Et puis après, elle se fait un peu prendre à son propre jeu, je pense.
Est-ce que son cœur basculera? C'est ce qu'on verra. Pour ça, il faut aller voir De mauvaise foi au cinéma. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez une scène particulière qui vous reste en tête, qui vous a particulièrement marqué sur ce film? Le genre de scène qui, dans 10 ans, vous reparle de mauvaise foi et vous dirait, ah oui, c'est cette scène-là, Erad.
Une scène de dîner où tout part un petit peu en sucette. Et donc, ça montre les limites de chacun. Enfin, et puis, c'est un peu, les masques, voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose. Et c'est, oui, c'est cette scène du dîner, moi, qui me plaît beaucoup, ouais.
Pour toi, j'ai Cyrielle.
Moi aussi, moi c'est pas le dîner, mais c'est juste après le dîner, au moment où Réginald part avec Arthur, mais je n'en dis pas plus, je vais pas spoiler non plus, et je trouve cette scène vraiment très très belle, vraiment.
Pour toi, Roman?
Moi, je sais que la scène que vient de citer Jessica, elle m'a beaucoup touchée aussi dans ce que dit Réginald au personnage d'Arthur. Et puis, j'ai aussi une scène avec Athénaïs et Arthur que j'aime beaucoup, mais bon, je ne vais pas trop spoiler, mais quand elle revient le voir après quelques temps et qu'ils se re-rencontrent après du temps qui a passé, qui m'a bien touchée aussi, j'aime beaucoup.
En tout cas, c'est des belles rencontres dans ce film, très joli casting. On le disait, il y a un personnage quand même aussi important, c'est le château, c'est Parelmonial. Il y a vraiment tout plein d'endroits. Moi, ce que je vous souhaite évidemment, c'est que ce film rencontre son public mercredi. On va continuer à en parler avec justement Pascal Demelon et Philippe Duquesne de cette relation entre son notaire et son clerc, et de voir un petit peu toutes ces malversations qui va se faire pour que sa fille tombe amoureuse de cet héritier pour sauver son château. C'est toute l'histoire de Mauvaise Foi qu'on va découvrir au cinéma. Merci les filles, merci d'avoir été avec nous pour parler de vos rôles plus particulièrement. Merci beaucoup Erane, merci Roman et merci Jessirielle. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Et on va se requitter avec un extrait, c'est parti.
Tu as devant toi le César de la stratégie.
Arthur Chambourcy, c'est à lui que je souhaite transmettre ma fortune.
Je peux t'aider?
Tu trouves pas qu'il irait bien avec Athénaïs?
Ta stratégie, c'est sacrifier notre fille pour sauver ton château?
Notre château.
J'ai tout réglé jusqu'au moindre détail.
Mais papa, t'as pété un câble ou quoi?
Je te présente Arthur Chambourcy.
C'est un chef-d'œuvre, cette meuf.
Toi, tu parles de ma copine, là?
On dirait qu'elle sort d'un Botticelli. Oh, je pourrais faire un nu incroyable. Un nu.
Et on continue notre spécial de Mauvaise Foi. Hein, pour ce 5 mai, le film, vous le savez, sort mercredi dans les salles. Roman de Stabenrath est toujours avec nous. Et Roman nous a fait un petit cadeau. Elle s'est dit, tiens, je reviens juste après l'extrait. Et je vous ramène mon Golden Boy. François David Cardonnel, bonjour.
Salut à toi, comment on va?
Ça va très très bien, je suis très heureux de te retrouver. On s'était vu pour Templeton il y a quelques années, une série je sais qui comptait beaucoup pour toi. Depuis on t'a vu dans Clem, on t'a vu dans plein de choses différentes. Et franchement, ça va plutôt bien. Et là tu joues vraiment ce fiancé, mais un peu, pas détestable, hein, je dirais pas ça, mais un peu un but de sa personne qui roule en Tesla. Alors évidemment, en ce moment ça agace un peu tout le monde, hein, ce genre de choses. Mais en tout cas, je suis sûr que t'as pris un pied phénoménal à le jouer.
Bah, c'est incroyable. On dit qu'il est détestable, mais moi, je l'adore. Je l'adore vraiment, ce personnage.
C'est ça que t'as réussi à faire. T'as réussi à faire un personnage détestable qu'on aime.
Alors ça, c'est top, hein, parce que c'est vraiment le challenge. Moi, en tout cas, c'était le mien. C'est toujours un plaisir de jouer ce genre de personnage. Moi, ce que je dis souvent, c'est que dans la vie, je pense pas que je sois un méchant. Et c'est vrai que d'être un petit peu vindicatif en fiction, c'est quand même un grand plaisir. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de dommage, on fait de mal à personne. On peut y aller, quoi.
On joue.
Mais ouais, moi, je vois des séquences avec Roman où clairement, je l'envoie péter, quoi. Vraiment, avec des sales regards, des trucs. J'ai envie de m'excuser tout de suite. Et en même temps, je le fais pas et je le fais à fond. Et je sais que j'ai le droit de le faire. Parce qu'on est payé pour le faire. Et non, c'est cool.
C'est ça toute la différence. Roman, tu connaissais pas François David, j'imagine. Puisque c'est ton premier grand rôle au cinéma. On le disait il y a un instant avec celle qui joue ta maman, Erad Van Meyer. Comment s'est passée votre rencontre à tous les deux?
Bah franchement, une super rencontre, et ce qui est cool, c'est quand on a des partenaires avec qui on s'entend bien, et je pense que ça, mine de rien, ça change quand même la fiction, je pense, et même si le travail de l'acteur, c'est malgré, quels que soient les sentiments qu'on a dans la vie, on doit jouer ce qui est écrit pour l'écran, là on a eu la chance de super bien s'entendre, et donc d'avoir un plaisir à créer cette relation fictive à l'écran, et donc bah voilà, une rencontre simple avec beaucoup de connexions, et donc c'était un vrai plaisir de jouer avec François David.
Surtout qu'en plus tu as quand même deux partenaires, hein, dans ce film, hein, parce qu'il faut le dire, ton cœur va balancer entre deux, et il faut dire que ton père, lui, va évidemment essayer de combiner pour qu'il balance d'un certain côté, mais je crois qu'Eliott va rien lâcher, François David.
Bah non, il n'est pas là pour lâcher, parce que le personnage d'Eliott, c'est une espèce de golden boy un petit peu qui a fait Sciences Po, qui est très très sûr de lui, qui est un petit peu un but de sa personne, en tout cas assez prétentieux, mais qui a des objectifs aussi, il est assez opportuniste. Je pense sincèrement qu'il est vraiment amoureux d'Athénaïs, mais le fait de se retrouver dans une position qui pourrait l'élever socialement, je pense, ne le déplaît pas. Et c'est peut-être la seule chose qui pourrait manquer à ce qu'il est. Il a l'argent, il a une forme de pouvoir, et il lui manque peut-être... peut-être
un... il est sincère avec Athénaïs, hein, complètement. Son amour est totalement sincère. Hein.
Ah, il l'est. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que... Ouais, en tout cas, il ne se laissera pas faire. Il ne se laissera pas faire dans les sentiments qu'il a pour Athénaïs, mais aussi dans ses objectifs. C'est un type qui a des objectifs, quoi.
Et d'ailleurs, c'est ce qui plaît aussi à Athénaïs, je pense. Et c'est là où le couple, il fallait qu'il soit hyper sincère dès le début et qu'il soit pas trop caricatural, malgré le personnage peut-être un peu spécial d'Eliott. Athénaïs, elle l'aime vraiment. Elle aime, je pense, cette autorité-là. Elle aime sa confiance en lui aussi. Et c'est une fille qui est aussi, finalement, on dirait pas forcément comme ça, mais assez émancipée. Elle a la même foi que ses parents, mais voilà, elle est avec quelqu'un qui ne partage pas forcément cette foi. Elle est ouverte d'esprit. Et donc, il fallait que ce couple-là soit solide et qu'on y croit à l'écran, sinon toute l'histoire pouvait pas se dérouler. Et donc c'était un peu aussi le challenge et qui, je pense, est relevé, enfin en tout cas j'espère. Mais
François David.
Ouais non, mais je pense que c'est ça effectivement, le côté elle a un côté Athénaïs qui est assez révolutionnaire dans ce cadre familial très catholique. On voit qu'elle donne un coup de pied dans la fourmilière rien que par le fait d'être avec un type comme Eliott. Ça prouve ça, et je pense que ça le personnage d'Eliott n'est pas insensible à ça.
Parce que ça, c'est pas faire à Athénaïs, hein. Quand même du caractère. Hein.
Ah oui, bah c'était l'objectif, parce que c'est vrai que comme tout est un peu centré autour de l'intrigue amoureuse, facilement j'aurais pu être un peu effacée aussi dans la narration. Enfin, le personnage aurait pu être un peu effacé, et moi j'avais vraiment à cœur de pas faire un personnage effacé justement, et de montrer que c'est pas parce que elle est prise dans les combines de son père qu'elle a pas son libre arbitre, sa liberté, et aussi comme disait François David, un certain esprit révolutionnaire, si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas voilà, elle est vraiment elle aime, je pense, défier ses parents, défier ce milieu aussi, tout en l'épousant complètement, parce qu'on voit même dans sa manière de s'habiller, voilà, c'est une fille qui est très apprêtée, avec un style vestimentaire assez classique et tout ça, et voilà, mais elle aime ce défi là et puis finalement dans les deux relations qu'elle noue avec ces deux garçons, il y a dans les deux cas un esprit de liberté quand même, et d'émancipation en fait. Même avec la relation d'Eliott au début, ce qu'on peut penser un peu classique, en fait non, elle est dans une contre-indication vis-à-vis de ses parents, quoi.
Premier film d'Albéric Saint-Martin, De mauvaise foi, on en parle, c'est notre spécial aujourd'hui, le film sort mercredi au cinéma. Et puis on va terminer en beauté, puisque dans quelques instants, juste après ce nouvel extrait, Pascal Demelon et Philippe Duquesne nous rejoignent pour une finale en feu d'artifice, je crois qu'on peut le dire comme ça. Merci à tous les deux. On terminera juste avec quelques mots sur vos projets à tous les deux.
Pour l'instant, j'ai quelques projets qui se dessinent en cours, mais je suis en train surtout de préparer quelque chose qui n'a rien à voir avec le métier d'acteur, mais je suis en train de préparer une exposition, parce que je dessine, et ça me prend énormément d'énergie, de temps et de passion. Voilà.
Roman, du théâtre.
Là, en ce moment, je suis en train de jouer dans un théâtre à Paris, une pièce qui s'appelle Les Plaines de la Calamité, écrite par Alice Schwab. Et j'ai une série qui sort à l'automne, c'est Pécheresse, sur Cineplus OCS, où je vais faire une fille, un peu une mean girl, un peu différente d'Athénaïs.
Bon, on a hâte de découvrir ça, évidemment, on aura le plaisir j'espère de te recevoir à nouveau. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. De mauvaise foi, c'est mercredi au cinéma.
Ça fait une semaine qu'on se connaît et on part ensemble en vacances.
En pèlerinage, on part en vacances.
Alors, les deux garçons à droite et la famille à gauche.
Est-ce que tu précipiterais pas un peu trop tes fiançailles?
T'es quand même pas en train de me refourguer ton peintre, là.
La prochaine fois que je te vois tourner autour de ma copine, je te fais bouffer tous les cierges de Paray-le-Monial.
On se détend, là.
Et nous sommes détendus, nous, ma chérie.
Allez, notre spécial De mauvaise foi continue et se termine en beauté avec nos deux héros, on peut le dire. Hein, Pascal Demelon et Philippe Duquesne sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Hello, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et on va découvrir notre notaire et son clerc de notaire. Alors, évidemment, ces deux-là nous font beaucoup rire déjà dans leur relation aussi, parce que c'est vrai que Edmond et Réginald s'entendent plutôt bien. C'est son bras droit, je dirais même, plutôt. Mais alors, Réginald, mais qu'est-ce qui nous fait rire à vouloir mettre sa fille dans les bras de ce jeune homme qui n'est pas du tout pieux pour un sou et qui va devoir convertir pour toucher cet héritage et sauver son château?
Oui, c'est l'un des challenges qu'il a. Il en a plusieurs, en fait. Ce qui va lui faire prendre des chemins de traverse par rapport la bienséance et tout, etc. Donc il y a effectivement, ça c'est en second temps, la première préoccupation qu'il a, c'est de sauver à la fois ce château dont il a hérité, un château familial, Blanpré, qui a quelques soucis de toiture et de bien d'autres choses, et ce qui coûte assez cher. Il voudrait faire classer ce château, malheureusement on lui explique que voilà, pour des raisons historiques, ça ne va pas pouvoir se faire, ce qui veut dire qu'il se retrouve à charge de trouver beaucoup d'argent pour la réfection de ce... En second plan, effectivement, sa fille ramène à la maison un jeune homme, bon, qui a ses atouts, mais qui n'inspire pas complètement la confiance de Reginald et de son épouse. Donc il y a aussi un petit deal qui se fait à l'étude notariale, car nous sommes en charge d'assurer la succession d'une de mes clientes, qui malheureusement va passer dans l'autre monde, et le charge effectivement de transmettre un héritage assez conséquent à la seule personne qui lui inspire confiance, à la seule condition que ce jeune homme soit totalement pieux et soit vraiment lié à la foi qui est la sienne.
Et validé en plus par les services catholiques, hein.
Absolument, parce que ça rigole pas, hein. Ben, voilà, il faut, voilà, il y a beaucoup de protocoles à suivre. Donc, ces deux challenges vont se mélanger un tout petit peu, vont l'amener à transgresser un tout petit peu avec, comme je le disais précédemment, avec les règles, avec la complicité, effectivement, de son bras droit, même parfois, on pourrait dire, les deux bras et une partie de sa tête. Mais comme lui-même a des méthodes un peu contestables, mais ça, Philippe va vous en parler, c'est dire qu'ils deviennent complices de petites combines pour essayer de résoudre tous ces problèmes.
Et ça va pas s'arranger parce qu'évidemment, comme Reginald va être très occupé à essayer de récupérer cet héritage auprès du nouveau gendre potentiel de sa fille, du coup Edmond va rester souvent seul à l'office notarial et là, il va pas toujours faire que les bons choix.
Parce qu'il a un problème, nous avons un problème, c'est que ce testament, on l'a perdu. Et donc, sans ce testament, il est compliqué d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc il y a aussi ce problème-là, c'est-à-dire qu'en fait c'est des gens qui se retrouvent avec des problèmes qu'ils n'auraient pas dû avoir.
Des problèmes de riches.
Alors quelque
ou
part.
Pas.
Non mais c'est vrai. Non mais justement, mais ce qui est assez judicieux dans cette comédie, c'est que ça traite un peu la petite bourgeoisie de province, mais en même temps en les mettant dans des réalités que tout le monde peut rencontrer.
Exactement. Edmond, qu'est-ce qui t'a plu en premier chez lui, Philippe?
Oh, bah, c'est un personnage. D'abord, la relation qu'il a avec le notaire, qui est son chef quelque part. Mais en fait, ils sont avant que ce soit hiérarchique, c'est plus une relation d'amitié, je dirais.
C'est ce qu'on sent vraiment entre les deux personnages. C'est vraiment une relation amicale, un lien qui les unit. Ouais.
Voilà. Et heureusement qu'il y a ce lien-là, parce qu'en même temps, ce qui m'a plu dans Edmond, c'est que c'est quand même quelqu'un d'assez dépassé, assez rapidement, quoi. C'est quelqu'un qui est toujours un petit peu à côté de la plaque, alors qu'il essaye vraiment de bien faire, il fait de son mieux. Mais
quand il se retrouve souvent seul pour gérer un peu tout, ben, ça devient compliqué pour Edmond.
Oui, il a du mal. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bah, notamment, oui, cette histoire de ce testament, que c'est quand même le papier le plus important qui est presque au centre du film. Bah, il sait plus où il l'a mis.
C'est très vaudevillesque aussi. C'est ça qui est drôle. C'est vraiment du marivaudage, du vaudeville. Ça pourrait faire même penser à une pièce de théâtre, pourquoi pas. Il y a vraiment beaucoup de comédie, en tout cas.
Je rebondis sur le témoignage poignant que vient de nous faire Philippe.
Alias Edmond.
En fait, voilà, on pourrait résumer à ce que ces personnages ont beaucoup de mal à faire bien. Et parce que leur volonté, c'est de bien faire. Mais c'est ça qui est assez amusant, c'est que il suffit pas d'avoir envie, parfois on est un peu contrarié par la réalité des choses. Et comme Philippe le disait très justement, ils sont très vite dépassés parce que c'est pas des professionnels de l'embrouille, hein. C'est-à-dire qu'ils sont un peu contraints à prendre ce chemin-là. Et en même temps, il y a un parcours initiatique qui se fait parce que tous deux sont respectueux de la foi des autres, mais ne sont pas complètement versés dans le rituel, dans la pratique de la foi chrétienne. Et il y a un petit chemin initiatique qui se fait, qui va amener, au départ malgré lui, Reginald à avoir une espèce de révélation à la foi.
Il n'est pas fan des bondieuseries, hein, franchement,
non.
Au début. Hein.
Contrairement à son épouse, qui
est très pieuse.
Ah, ben, est extrêmement pieuse. Si on l'écoutait, on irait chercher l'eau au puits et on bénirait le puits. Mais en même temps, voilà, petit à petit, chaque personnage va être gagné par des émotions, des sentiments auxquels il ne s'attendait pas. Et à un moment donné, le personnage de Reginald dit « Parfois, on se trompe de chemin, on prend pas forcément le meilleur, mais si on ne l'avait pas pris, il y a des êtres humains qu'on n'aurait pas rencontrés et qui peuvent changer votre vie. » C'est un peu le message aussi de ce film.
Vous connaissez tous les deux, j'imagine, avant.
Oui, on se connaît depuis des années. On a tourné quelques films ensemble, et puis voilà.
Déjà un bonheur de vous retrouver.
Toujours, c'est comme si on s'était pas vu depuis un certain temps, là. Et puis on s'est retrouvé comme si on s'était vu hier, quoi.
Quel est votre meilleur souvenir de tournage? Est-ce que vous avez une scène particulière qui vous a marqué?
Il y en a une, si tu permets, hein, Philippe.
Je t'en prie.
Ça a été le premier de notre rencontre. Je sais pas pourquoi tout de suite au départ, mais quand vous faites des rencontres, vous vous dites, mon Dieu, c'est pas possible, ça va être compliqué. Il y a le regard qui frise, tu te souviens, ce film improbable qu'on avait fait, Blanche Nuit, oui. Où on jouait tous les deux, d'ailleurs, une équipe, hein, une team, mais de flics. Donc j'étais un peu le supérieur de Philippe, qui lui était très zélé, pareil.
Il est toujours mon supérieur,
lui. Oui, pardon. Tu
sais. C'est ça que ça change, tout ça.
Ça, pour vous dire que les premières scènes qu'on tournait ensemble, c'était cauchemardesque, parce qu'il y avait tout de suite, dès qu'on se posait dans le regard de l'un de l'autre, on partait en fou rire. Ça, c'est un très beau souvenir que je garde, et qu'on on retrouve assez régulièrement quand on a la chance de pouvoir refaire des films ensemble, etc. Ça, voilà. C'est celui qui me vient à l'esprit, hein.
Et toi, Philippe?
Sur Mauvaise Foi, je dirais que c'est, en fait, ça a été un tournage vraiment très agréable. À tous les niveaux, que ce soit toute l'équipe de comédiens, de techniques. Enfin, moi, j'avais le sentiment de vraiment, comme tout le monde, d'être bien sur le coup, chacun bien à son poste.
Ils t'ont bien habillé, bien rasé et tout. Et ils t'ont fait tout beau, dis donc.
Oui, enfin, clair de notaire, quand même.
Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi.
Oui, mais non, je t'en prie, mais quand même. Donc, voilà, non, mais ça a été vraiment un tournage vraiment dans la joie, quoi. C'était super.
C'est ce qu'il faut. Et puis ça retranscrit bien parce que ça se sent à l'écran. En tout cas, vous vous êtes amusé. Ça s'appelle De Mauvaise Foi. C'est le film à ne pas rater au cinéma mercredi dans les salles, justement, où on va pouvoir tous vous découvrir dans cette belle comédie. Philippe, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, parce que on peut se dire souvent, tu sais, un film sur la religion et tout ça, oh là là, ça va être ennuyeux, ça va pas être... Eh ben, enfin, une comédie, on peut rire de ça, et moi, je trouve, c'est pour ça que j'ai accepté, je trouve ça formidable.
Tu sais, mon curé chez Nudiste était très drôle.
Oui, absolument, bien d'accord avec toi. Belle référence, pour ceux qui l'ont connu. Oui, absolument, maintenant.
On prend un petit coup, tout ça, de vieux.
Mais c'est vrai, mais on est traversé par quelques émotions aussi dans ce film. Moi, c'est mes comédies préférées. C'est celles qui vous font rire et qui vous titillent, vous chatouillent à des endroits un petit peu plus sensibles. Et c'était, en tous les cas, le challenge, enfin, l'envie de ce film. C'était amener les gens à une réflexion sans pour autant les mettre dans la culpabilité de quoi que ce soit. Il y avait une phrase, je ne sais plus si c'est toi, Philippe, ou pas, enfin, peu importe, qui résume un peu ce film aussi. Enfin, il y en a d'autres. La question qu'on peut se poser vis-à-vis de la foi, c'est est-ce que la foi vient à vous ou c'est vous qui allez à la foi? Et je pense que le sujet, sous forme de comédie, vous amène une petite réflexion sur le sujet.
Exactement. De Mauvaise Foi, mercredi au cinéma, on ne le rate pas. Philippe Duquesne, Pascal Demelon, merci d'avoir été avec nous tous les deux pour en parler. Et puis on vous dit à bientôt.
Ah oui, avec joie, mon ami.
Avec plaisir, à bientôt.
Ça suffit! Et pipi, la prière et au lit. Ah, Elliot, quelle surprise! Je m'attendais pas à vous trouver là.
Non, mais je vais pas rester.
Ah, tant mieux. Très bien, pardon. Oh là là, excusez-moi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous recevrons l'héroïne du Capitaine Marlowe. Corinne Maziereau sera avec nous. Nous ferons également une spéciale Les Ailes Collées, la fiction événement de Thierry Benisti, avec Thierry qui viendra entouré de toute son équipe du téléfilm. Et puis on aura le plaisir de recevoir également Joséphine Dray, qui sera à l'affiche de Intérimaire, sa nouvelle série courte qu'elle a créée. Et elle viendra tout nous dire également.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.